Alors, au départ, quand on a fait la liste des prédications, je devais parler de l'éducation des enfants, mais j'en parlerai une prochaine fois, parce que j'avais à cœur de vous partager ce que nous avons reçu, enfin une partie de ce que nous avons reçu lors de notre retraite avec Agapé sur l'intelligence émotionnelle. J'ai beaucoup appris, et j'avais envie, voilà, j'avais envie de... J'avais vivement désiré partager ce thème avec vous. Je vais passer un peu de temps à donner quelques définitions, hein, donner des informations. Donc si vous pensez que je vais un peu vite ou quoi, je tiens à votre disposition le contenu du message si vous avez envie de revoir certaines définitions ou quoi. Voilà, alors on va parler donc de l'intelligence émotionnelle. La définition et l'utilisation de l'intelligence émotionnelle dans nos vies. Alors, intelligence émotionnelle, ça veut dire d'abord émotion. Donc, on va en parler. C'est un thème que j'aborde régulièrement parce que je trouve que c'est une notion que le Seigneur nous a donnée pour mettre du piment, pour mettre du plaisir dans nos vies, d'avoir les émotions. Donc, une émotion, c'est un ressenti, hein, c'est un ressenti face à un fait ou face à une situation. L'émotion, elle est neutre. L'émotion, c'est une réaction brute. Et comme on le sait sans doute, il y a quatre émotions fondamentales, hein, c'est la joie, la tristesse, la colère et la peur. Et quand on croise ces émotions entre elles, ça en donne d'autres. Par exemple, je vous en cite deux cas, mais vous pourrez vous amuser après à faire d'autres croisements. Si vous croisez la colère et la peur, ou la peur et la colère, ça produit la honte dans nos cœurs. Si vous croisez la tristesse et la colère, ça peut conduire à l'envie, parce qu'on est triste de ne pas avoir ce qu'on voudrait, et on est en colère parce qu'on estime qu'on est en droit de l'avoir. Et les sentiments, en revanche, c'est une réaction construite par rapport à cette émotion. Le sentiment, il est encodé, si je puis dire, par notre culture, par notre éducation, par nos expériences. Et donc, on est responsable de nos sentiments, mais non de nos émotions. Et ces quatre émotions fondamentales, donc ça fait partie des choses qu'on apprend aussi en ce moment avec notre formation à la relation d'aide. Ces quatre émotions fondamentales, on les ressent dès notre petite enfance, dès notre naissance. Hein. Un nouveau-né, il sait ce que c'est que la joie, il sait ce que c'est que la tristesse, il sait ce que c'est que la peur, il sait ce que c'est que la colère. Et ces quatre émotions, on les retrouve dans la Genèse, dès le début de l'histoire de l'humanité. La joie de Adam quand Dieu crée Ève pour lui. La peur après la désobéissance. J'avais peur et je me suis cachée. La colère de Dieu face à la désobéissance des hommes et la tristesse d'Adam et Ève chassés du paradis. Donc dès le départ, on a ces quatre émotions fondamentales. L'intelligence émotionnelle, je vais donner la définition et je vais l'écrire, enfin, elle va être écrite. Voilà. C'est la capacité de comprendre nos propres émotions ou nos sentiments. Et de comprendre comment la façon dont ces émotions vont affecter notre capacité à comprendre les situations que nous vivons et les émotions qui affectent les autres. La conscience de nos émotions est une clé pour la santé émotionnelle et pour accéder à un changement de comportement positif et constructif. Avez-vous besoin qu'on revoie cette définition, qu'on la relise? Ça va? Et donc le quotient émotionnel, il mesure notre intelligence émotionnelle. On parle de quotient émotionnel ou de QE par rapport au QI, au quotient intellectuel. Alors la définition du quotient intellectuel, c'est à la fois une série de tests psychométriques pour mesurer l'efficacité mentale d'une personne et aussi le résultat obtenu par cette personne. Et des études scientifiques montrent que le quotient intellectuel serait déterminé génétiquement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas agir directement, sur le niveau de son conscient intellectuel. Même si l'environnement culturel et intellectuel qui entoure un enfant est important. C'est pourquoi le quotient intellectuel, il évolue à peu près jusqu'à l'âge de 6 ou 7 ans, puis après, il est plus ou moins définitif jusqu'à 20, 40, 60 ans. Simplement, en cas de stress, de maladie, de fatigue, de dépression, ce quotient intellectuel tend à diminuer temporairement en cas de dépression, de fatigue, définitivement, malheureusement, en cas de maladie dégénérative du cerveau et des neurones. Alors, contrairement à notre quotient intellectuel, on peut développer notre quotient émotionnel afin d'utiliser notre intelligence émotionnelle pour mieux vivre avec soi-même, bien sûr, mais aussi avec les autres et avec Dieu. Parce que les domaines d'intervention de l'intelligence émotionnelle sont vastes, très vastes, et je voudrais juste en citer quelques-uns. Alors déjà, ce qu'on appelle la perception de soi. Ça fait partie d'un des domaines d'intervention, ça fait partie du domaine d'intervention de l'intelligence émotionnelle. La perception de soi, ça englobe la conscience de soi émotionnelle, c'est-à-dire la capacité qu'on a d'être conscient de ses propres émotions, de ses propres sentiments, de les comprendre et d'en comprendre leur impact sur soi-même et sur les autres. Dans la perception de soi, on a également l'appréciation de soi, c'est-à-dire la capacité d'accepter et de respecter nos forces et nos faiblesses. Après, il y a l'expression de soi qui englobe l'expression émotionnelle, qui est la capacité d'exprimer ses émotions de façon verbale et non verbale, l'indépendance émotionnelle, qui est la capacité d'être autonome et libre de toute dépendance émotionnelle des autres, hein, c'est-à-dire d'être capable d'être indépendant émotionnellement et pas complètement à la merci des émotions des autres. Et aussi ce qu'on appelle l'assertivité ou l'affirmation de soi, qui est la capacité d'exprimer des émotions, des croyances et des pensées d'une manière qui ne soit pas destructrice, ni pour nous, ni pour les autres. Dans l'intelligence émotionnelle interviennent bien sûr les relations interpersonnelles, c'est-à-dire la capacité de développer et de maintenir des relations mutuellement satisfaisantes. Dans l'intelligence émotionnelle intervient la prise de décision, c'est-à-dire prendre une décision, ça veut dire être en capacité de contrôler ses pulsions, qui est la capacité de résister à une pulsion, à un désir impulsif, ou à une tentation de passer à l'acte. J'imagine que on sait tous ce que ça veut dire, hein, la tentation de passer à l'acte, quand on a envie d'étrangler quelqu'un ou de l'envoyer paître, hein. Ou quand une pulsion est quand même acceptable, d'en différer le désir. Par exemple, dans la pulsion sexuelle, en différer l'activité le soir avec son conjoint. Et pas de se sauter dessus dans la rue, ça veut dire ça aussi. Quand on parle de contrôler ses pulsions. Dans la prise de décision intervient le sens des réalités. C'est-à-dire la capacité de rester objectif en essayant de voir les choses telles qu'elles sont, vraiment, et résoudre des problèmes en utilisant ses émotions de manière efficace. Dans l'intelligence émotionnelle intervient la gestion du stress, qui englobe la flexibilité, c'est-à-dire la capacité d'adapter ses sentiments, ses pensées et ses comportements au changement. Changements qui nous sont imposés. Et la tolérance au stress, qui est la capacité de faire face efficacement à des situations difficiles. Et enfin, dans la gestion du stress, il y a l'optimisme, qui est la capacité de rester plein d'espoir et de rebondir malgré les revers. Et enfin, dans l'intelligence émotionnelle, il y a le bonheur. Et le bonheur, c'est la capacité de se sentir satisfait de soi-même et des autres, et de la vie en général, malgré les circonstances. Donc une personne, grâce à son intelligence émotionnelle, grâce à la capacité de développer cette intelligence émotionnelle, pourra intervenir dans ces différents domaines, dans tous ces différents domaines, pour mieux les gérer. Et de fait, elle sera en meilleure santé émotionnelle, en général. Je vous ai parlé de la jeunesse tout à l'heure. On va revenir à la jeunesse pour parler de quelqu'un qui n'a absolument pas utilisé son intelligence émotionnelle de manière constructive. Je parle de Caïn. Alors, l'histoire de Caïn. On va reprendre ça, c'est dans Genèse, chapitre 4, versets 1 à 8. Je vais vous le lire. Il y a des fois des versions différentes selon certains mots, mais l'histoire, en gros, c'est la même. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit « J'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi arbores-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche, tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Cependant, Caïn dit à son frère Abel, « Allons dans les champs. » Et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. Alors, d'autres versions traduisent les trois questions que Dieu pose à Caïn en disant « Pourquoi es-tu fâché ? Pourquoi es-tu renfrogné ? Et si tu agis bien, ne relèveras-tu pas la tête ?» Et il y a beaucoup de choses, hein, bien sûr, il y a beaucoup de questions dans ce texte. Alors Caïn, c'est l'aîné. Son nom veut dire « créer, acquérir, produire ». Il devient cultivateur. Pourquoi pas ? Pas un péché d'être cultivateur. C'est nécessaire, il faut manger. Peut-être même qu'il était vegan avant l'heure. Son... Pardon ? Caïn. Son offrande n'est pas acceptée. Mais le texte ne dit pas pourquoi. Après, on pourrait penser que comme Dieu a fait des habits de peau à Adam et Ève après la chute pour les couvrir, hein, c'est dans Genèse 3, puis qu'il va enseigner par la suite à Moïse que le sacrifice des animaux est nécessaire pour couvrir les péchés. Ça veut dire qu'il va préférer le sacrifice d'animaux d'Abel. Mais rien ne le précise dans le texte. D'autres gens disent, Caïn, il a offert le produit de son travail, alors qu'Abel, il a offert le produit de la création. Voilà. Tout ce que nous savons, c'est que Dieu accepte l'offrande d'Abel et pas celle de Caïn. Alors, Dieu va poser trois questions à Caïn. 1. Pourquoi es-tu fâché ? Donc, c'est une émotion. Hein. C'est une émotion et c'est au niveau de la perception de soi. Après, lui dit : Pourquoi es-tu renfrogné ? Là, on est dans le comportement. Le langage corporel, l'expression de soi. Puis après, il lui dit, si tu agis bien, ne relèveras-tu pas la tête ? Voilà, c'est bon. Là, c'est l'action, la prise de décision. Et par ces questions, Dieu voudrait conduire Caïn à réfléchir, à poser des questions qu'il n'arrive pas à formuler. Caïn, il est dans l'émotion brute. Hein? Donc la première question, c'est pourquoi es-tu fâché? Pourquoi es-tu irrité? Dieu, il parle à Caïn de son état d'esprit, de son émotion brute. Bien sûr qu'il sait, Dieu, pourquoi Caïn est irrité. Mais il veut conduire Caïn à s'interroger. Effectivement, la colère, c'est une des quatre émotions fondamentales. L'origine de cette colère chez Caïn, elle est multiforme. Il est jaloux, il est jaloux de son frère, il ne comprend pas, il est frustré, il a mal. Son orgueil est mis en péril parce que son frère a gagné et lui, il a perdu. Et il s'arrête là, il voit que ça. Et il a l'impression que Dieu lui dit « Tu n'es pas compétent, je n'apprécie pas ton travail. » Comme si son identité de travailleur, de cultivateur, était mise en péril. Dieu voudrait que Caïn prenne conscience de son émotion, parce qu'on ne peut pas gérer une émotion dont on n'est pas conscient. Et il voudrait l'alerter sur le besoin qu'il a, Caïn, de trouver la source de cette émotion. Et de découvrir comment il peut gérer cette douleur. Parce que Caïn, il souffre. Vraiment, il souffre. Donc, quelque part, Dieu, il fait déjà de la relation d'aide. Il lui pose des questions ouvertes pour l'aider à réfléchir. Après, deuxième question, il lui dit « Pourquoi arbores-tu un air sombre ?» D'autres versions disent « Pourquoi es-tu renfrogné ?» Moi, j'aime beaucoup ce terme, renfrogné. On dirait qu'un petit enfant... Vous savez, on gronde un petit enfant, mais là, il renfrogne. Et là, Dieu, il parle à Caïn de son attitude, de son langage corporel. Hein? Et nous, dans nos attitudes, dans notre langage corporel, on informe les autres. Parfois, on ne s'en rend même pas compte. Mais on informe les autres de son émotion intérieure. Là, il informe Dieu de son émotion intérieure. Bien sûr que Dieu sait pourquoi il est renfrogné. Mais c'est comme si Dieu lui faisait remarquer, tu ne peux pas changer ton émotion, mais tu peux agir sur ton attitude. Tu peux changer ton attitude. Et puis la troisième question, et si tu agis bien, ne relèveras-tu pas la tête? D'autres traductions disent encore, ne seras-tu pas relevé? En fait, c'est une allusion au fait que quand un inférieur allait voir un supérieur, il se prosternait devant lui et le supérieur le relevait, comme ça. Donc, ne seras-tu pas relevé? Tout est encore possible. Hein? Dieu ne donne à Caïn aucune explication de son choix. Mais il le met devant la liberté fondamentale de choisir quel comportement adopter. Et nous sommes tous libres de choisir quel comportement adopter. Il lui dit, Dieu, il lui dit à Caïn, tu peux te relever, tu peux vaincre cette émotion négative et choisir un comportement positif face à cette souffrance. Il le dit dans le verset 7, hein, je vais le relire, certainement si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. C'est incroyable cette phrase. On dirait que le péché est une personne, un animal. On dirait un animal, vous savez, qui est tapis dans l'ombre et puis qui attend pour sauter sur Caïn, ou sur nous d'ailleurs, dès que l'on baisse un peu la garde et que l'on n'est pas... voilà. Tout est encore possible pour Caïn et donc pour Abel. Hein. Mais on connaît la suite. Caïn n'a pas utilisé son intelligence émotionnelle pour changer ses sentiments, son attitude et son comportement. Il a choisi la vengeance, il organise cette vengeance et il tue son frère avec préméditation. Et il dit donc, on va continuer versets 9 à 15, toujours dans la Genèse 4. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Dieu dit alors, « Qu'as-tu fait ? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Désormais tu es maudit, chassé loin du sol qui s'est entrouvert pour boire le sang de ton frère versé par ta main. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus toutes ses ressources. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Ma peine est trop grande pour être supportée. Voici que tu me chasses aujourd'hui de cette terre. » Je serai caché loin de toi, je serai errant et vagabond sur la terre, et toute personne qui me trouvera pourra me tuer. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn afin que ceux qui le trouveraient ne le tuent pas. Donc Caïn, il ajoute au meurtre le mensonge. Et puis après, quand il est atterré par l'ampleur de sa faute, il ne se repent pas. Il se plaint. Oh, il va encore m'arriver quelque chose. Il est toujours centré sur lui. Hein? Et avec de nouveau une émotion fondamentale, cette fois-ci la peur. Et Dieu, de nouveau, déjà, il réagit avec amour. Avec amour. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel met un signe sur Caïn afin que ceux qui le trouveraient ne le tuent pas. Et moi, j'ai envie de poser la question, je vais la poser à moi, bien sûr, à tout le monde. Où est-ce qu'on en est, nous, de la gestion de nos émotions? Dans nos groupes de maison, moi, j'apprécie beaucoup nos échanges dans les groupes de maison. Et encore dernièrement, on échangeait sur nos émotions, justement, face à des sentiments d'injustice ou d'insécurité qu'on peut avoir dans le travail, dans la famille, avec nos parents, nos collègues. On peut avoir des échanges verbaux virulents. Et qu'est-ce qu'on fait? On est attaqué et on réattaque. Pouf! Et l'émotion prend le pas. Et nous réagissons dans l'émotion, sans réfléchir, mus par des sentiments négatifs. La différence de Caïn, c'est qu'après on s'en veut. Et qu'on se repent. Mais on se trompe de cible. Pour Caïn, la source de la souffrance, c'était Abel. Donc il tue Abel. Pour nous, parfois, la source de la souffrance, ça peut être notre collègue, notre conjoint, notre parent, alors que la source de notre souffrance, c'est le péché. À aucun moment, Dieu ne dit à Caïn que le problème est Abel, mais il désigne bien le péché comme étant la source de sa souffrance, le péché qui est désigné comme un être, un animal. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Cette image, elle est vraiment impressionnante. Et pour ma part, moi, je m'encourage déjà, à utiliser notre intelligence émotionnelle pour nous baser dans nos attitudes et nos actions, non pas sur nos réactions émotionnelles brutes, mais en utilisant nos pensées et les promesses de Dieu contenues dans sa parole. Et je voudrais vous lire Romains 8, versets 1 à 4. Pour moi, c'est un des fondamentaux et j'ai toujours énormément de plaisir à lire ça. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'Esprit. Et c'est pourquoi je vous ai fait ce petit train. Parce que, qu'est-ce que c'est la locomotive de ce petit train? Si ce petit train, c'est notre vie, qu'est-ce qui fait la locomotive du petit train? C'est la Bible, la parole de Dieu. Ce sont les faits, ce sont les vérités que Dieu nous enseigne. Je parle assez fort là ou pas? Je suis plus devant le micro. La vérité que Dieu nous enseigne, c'est ça qui est le moteur de notre vie. Après, le deuxième wagon, je dirais, c'est la foi. Parce que notre foi, elle s'accroche à la vérité que Dieu nous donne. Parce que la foi, dans Hébreux 11:1, c'est la ferme assurance des choses que l'on espère, la certitude de celles qu'on ne voit pas. Il y a des gens pour qui la foi s'accroche à n'importe quoi. L'astrologie, le machin, le... Nous, notre foi, elle s'accroche à la vérité.
Et le troisième wagon, et ben, ce sont nos émotions, nos sentiments. Parce que là, vous voyez bien, c'est fluctuant. Si on mettait ça là, vous croyez que le train avancerait? Peut-être que des fois, il avancerait très très vite, puis après, il s'arrêterait. Ça, c'est le petit train de notre vie. Et c'est pour ça qu'en dernier, je vous ai fait petit train de notre vie. Voilà, les faits, la foi et les sentiments. Je vous remercie. Tu sais que ça, c'était un petit train qui était à nos enfants quand ils étaient petits. C'est la très très bonne qualité. C'est comme du perroir. Comme du perroir hier soir. Je vous remercie. Donc, si le petit train, ça reste dans votre esprit, ouais, ce sera plus important. Voilà.